Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Respect et considération. Emmanuel Macron a assuré hier soir sur TF1 entendre la colère de ceux qui veulent manifester samedi contre la hausse des prix des carburants. Mais il met en garde les gilets jaunes contre toute récupération politique. Récupération qui embarrasse aussi les syndicats, vous l'entendrez.
La tâche s'annonce rude pour Theresa May. La première ministre britannique va tenter de convaincre le Parlement d'accepter le projet d'accord sur le Brexit qui suscite un grand scepticisme et une mutinerie dans son propre camp.
Plus de 7 ans après le début de l'affaire qui avait entraîné sa démission du gouvernement, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron connaîtra aujourd'hui le verdict de la cour d'assises de Bobigny qui le juge pour des viols et des agressions sexuelles sur d'anciennes employées municipales.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, quels sont les obstacles à la naissance d'une armée européenne? On posera la question à Elie Tenenbaum, il est chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI.
Bonjour tristesse et salut la cohérence. Emmanuel Macron a ironisé hier soir aux 20h de TF1 sur tous ceux qui, de l'extrême droite à la France insoumise, en passant par les Républicains et le Parti Socialiste, soutiennent la mobilisation des Gilets jaunes samedi contre la hausse des prix des carburants et les choix fiscaux de l'exécutif. Si le chef de l'État assure entendre la colère de ceux qui veulent manifester après-demain, il met en garde les Français contre les récupérations politiques du mouvement. On est en train de vous mentir et de vous manipuler, a-t-il déclaré depuis le porte-avions Charles de Gaulle, où il a passé la nuit au large de Toulon. Emmanuel Macron a tenté de faire comprendre aux Français quel était le cap de sa politique, Stéphane Robert.
Emmanuel Macron a dit comprendre la colère d'une partie de la population contre la hausse des prix du carburant. Il est légitime qu'elle puisse s'exprimer, a concédé le président. En revanche, il y a selon lui un manque de cohérence dans les revendications politiques de certains manifestants.
J'ai du mal à comprendre. Les blocages vont être faits d'un côté par des gens qui me disent chaque jour il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter le nombre d'emplois publics, plutôt à gauche. Et qui vont aller manifester avec des gens qui, à droite, disent « il faut baisser les taxes ». Baisser les taxes, comment on le fait ? En baissant les dépenses publiques.
Ensuite, pour justifier ce qu'il est en train de faire, notamment la hausse des taxes sur les carburants, le chef de l'État a essayé de redonner du sens à son action, de l'inscrire dans le long terme, en dénonçant les polémiques politiciennes et conjoncturelles.
Je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent « on paye trop d'impôts » sont les mêmes qui vous disent « dès que vous commencez à demander des efforts ou à faire des réformes en profondeur », vous disent « ne touchez pas aux dotations, ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales, ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement ». Ça n'est pas possible. Et donc, le cap sur lequel je me suis engagé devant les Françaises et les Français consiste à avoir une politique de transformation en profondeur du pays. On ne le fera pas en un an, on ne fait pas davantage en 18 mois, il prendra le temps de ce quinquennat.
En faisant cela, Emmanuel Macron essaie de se donner du temps. Il a expliqué qu'il était en train de mener une politique de transformation du pays et qu'il faut être un peu patient pour en voir les résultats. L'exercice auquel il s'est livré hier soir de remise en perspective était plutôt réussi. Le bémol tout de même est de savoir si les Français qui se disent en colère et qui s'apprêtent à manifester samedi étaient dans la disposition d'esprit, ne serait-ce que d'écouter ce que le président avait à leur dire.
Certains gilets jaunes affirment encore et toujours sur les réseaux sociaux vouloir multiplier les blocages partout en France, voire marcher sur l'Elysée samedi. Mais de Matignon à la place Beauvau, le gouvernement répète qu'il empêchera le moindre blocage total. Des compagnies de CRS et de gendarmes mobiles sont prêtes à être déployées en fonction de l'ampleur de la mobilisation. Et les syndicats seront-ils de la partie ce samedi? Parmi les responsables nationaux pris de court par le mouvement, personne n'enfilera de gilets jaunes, mais des branches syndicales pourraient se greffer aux manifestations à leur choix.
La CFDT refuse tout net de s'associer à un mouvement dont elle estime qu'il est manipulé par l'extrême droite. Pour Solidaires, c'est le fond même de la mobilisation qui pose problème. Protester contre un outil fiscal censé financer la transition vers un autre modèle, c'est protester contre l'idée même de redistribution. À FO, seule la branche police sera du mouvement en organisant une grève des PV. À la CGT, les discussions ont été vives. Finalement, une seule union départementale, la CGT du Cher, ira tracter à côté des Gilets jaunes et non au milieu d'eux, Sébastien Martineau et son secrétaire général.
La colère des salariés qui vont manifester, nous on estime qu'elle est légitime et que la CGT a toute sa place pour répondre à ces questionnements-là. Deuxièmement, il est hors de question de laisser le Front National récupérer un mouvement de salariés. On est plus légitime qu'eux. Il faut élargir la colère. La colère, elle est sur le carburant, mais elle est aussi sur la hausse du gaz, la hausse de l'électricité, le caddie qui est horriblement cher depuis des mois et des années. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une colère, certes, mais il faut que ça se concrétise en mobilisation. Le mieux, c'est d'être organisé, puisqu'il y a le poids de l'organisation derrière qui fait qu'il y a moins de difficultés. Et quand on manifeste, c'est pas récupéré par les partis politiques. Donc on appelle toutes ces personnes-là à prendre en considération ce qu'on proposera dans les jours et les semaines à venir.
La CGT nationale appellera à manifester, mais plus tard. Pour l'heure, elle est paralysée par cette crainte qu'on puisse la voir aux côtés de l'extrême droite. En toile de fond, c'est la question des modes de mobilisation syndicale qui se pose. N'étant pas à l'origine de cet appel populaire à manifester, comment l'amener vers des thématiques plus traditionnelles? Une question qui s'était déjà posée au moment des bonnets rouges et qui devrait rester encore d'actualité.
Il est 7h05 sur France Culture. Après 5 heures de discussion hier, Theresa May a fini par convaincre ses ministres de soutenir son projet d'accord sur le Brexit. Mais tout reste à faire, car la première ministre britannique va s'employer à partir d'aujourd'hui de rallier le Parlement à sa cause, de faire taire les critiques dans l'opposition, mais aussi et surtout les rebelles dans son propre camp conservateur, vent debout contre la solution trouvée pour empêcher le retour d'une frontière physique en Irlande. L'idée serait de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière. Theresa May va présenter cet accord technique lors d'une allocution devant la Chambre des communes qui se prononcera ensuite le mois prochain. En cas de vote négatif, Theresa May devra revoir sa copie et elle pourrait quitter son poste. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
Elle le dit elle-même, Theresa May. Les jours qui viennent vont être difficiles. Car les attaques les plus violentes viennent de sa propre famille politique. Nick Timothy, son ancien conseiller à Downing Street, l'accuse d'avoir capitulé face à Bruxelles et les conservateurs pro-Brexit se déchaînent. Maintenant que le texte de l'accord est disponible, explique Jacob Rees-Mogg, on s'aperçoit malheureusement qu'il est encore pire que les rumeurs qui ont circulé. La première ministre ne peut pas promettre une chose et faire son contraire. Elle nous a promis qu'on ne resterait pas dans une union douanière. Elle s'y est engagée. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Même discours pour Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères votera contre le texte au Parlement et il ne sera pas le seul. Au total, près d'une quarantaine de députés de la majorité pourraient s'opposer frontalement au gouvernement. Privée aussi du soutien des unionistes nord-irlandais, Theresa May a donc pour l'instant très peu de chances d'obtenir la majorité des voix au mois de décembre. Mais elle ne tiendra peut-être pas jusque-là. Elle pourrait être renversée dans les heures ou les jours qui viennent par un vote de défiance à la Chambre des communes.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Changement diplomatique dans la Corne de l'Afrique après un accord de paix conclu cet été entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les Nations Unies viennent de lever les sanctions qui pesaient sur ce petit pays. L'Érythrée, l'un des États les plus pauvres et les plus répressifs au monde. Depuis 2009, Asmara était sanctionnée pour son soutien présumé aux djihadistes somaliens, les Chebabs. Mais faute de preuves formelles, l'ONU préfère donc lever les sanctions économiques. Il s'agit surtout de ne pas contrarier la dynamique actuelle, un réchauffement entre l'Érythrée et la puissante Éthiopie voisine. Espoir de paix et de prospérité dans la Corne de l'Afrique, reste à savoir si le pouvoir érythréen autoritaire pourrait maintenant se transformer. Direction les États-Unis à présent. Une nouvelle bavure commise par un policier blanc contre un homme noir suscite émotion et colère. Un vigile a été abattu à Chicago par la police ce week-end alors que ce garde de sécurité venait de maîtriser un homme armé. Ses proches notamment demandent justice, Grégory.
Dimanche matin, très tôt, au Manis Blue Room, en banlieue sud de Chicago, une bagarre éclate et un client sort une arme à feu. Le vigile, qui s'appelle Jamel Robertson, parvient à maîtriser l'individu et le plaque au sol. Mais quand, quelques minutes plus tard, les policiers pénètrent à l'intérieur de l'établissement, l'un d'eux ouvre le feu sur le vigile, qui pourtant porte un blouson avec écrit « Sécurité dans le dos ». Le jeune gardien, de 26 ans, meurt quelques minutes plus tard. 4 jours ont passé. Sur le parking du Manis Blue Room, on a brûlé des cierges et écrit « Justice pour Jamel ». Grégory habite la maison d'à côté.
Mon chien aboyait comme un fou et ça m'a réveillé. Puis j'ai entendu aussi les derniers coups de feu. La police venait d'abattre l'agent de sécurité. Et là, les clients du bar hurlaient « C'est le vigile, vous tirez sur le vigile ». Il faisait juste son boulot.
Le policier blanc a été suspendu, mais son nom n'a pas été dévoilé. Jamel Robertson laisse derrière lui une femme et un petit garçon de 9 mois. La NRA, le lobby pro-armes, a l'habitude d'utiliser ce slogan repris ici au printemps par Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Pour arrêter un mauvais gars armé, il faut un bon gars avec une arme. Jamel Robertson était ce bon gars-là, mais il a été abattu par la police. Sa famille a porté plainte et réclame $1 million de dommages et intérêts.
Grégory Phillips à Chicago pour France Culture. Plusieurs centaines de migrants partis en groupe il y a un mois du Honduras ont atteint la frontière entre le Mexique et les États-Unis, rassemblés sur la plage de Tijuana, une ville frontière qui jouxte San Diego en Californie. Certains de ces migrants ont pu monter sur la barrière métallique qui sépare le Mexique et les États-Unis. Retour en France avec la mobilisation des avocats aujourd'hui contre la réforme de la justice. Le texte sera débattu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et des avocats dénonce dès aujourd'hui la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi que la dématérialisation de certaines procédures qui risquent, selon ses avocats, d'éloigner les Français de la justice. Plus de 7 ans après le début de l'affaire qui avait entraîné sa démission du gouvernement, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron connaîtra aujourd'hui le verdict de la cour d'assises de Bobigny qui le juge pour des viols et des agressions sexuelles sur 2 anciennes employées municipales. L'avocat général a requis hier 6 ans de prison ferme contre Georges Tron, 4 ans de prison contre son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel. L'avocat général a également demandé que les accusés soient déclarés inéligibles pendant 5 ans et inscrits sur le fichier des délinquants sexuels. Leur défense s'est de son côté employée à démontrer l'absence de preuves et les incohérences du dossier Florence Turme.
On parle ici d'honneur, d'un dossier singulier. Éric Dupond-Moretti joue sur les silences, les intonations, les indignations et les colères, mais aussi la procédure, déplore la place de la victime qui devient progressivement l'âme du procès pénal. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est a-t-on rapporté les preuves de la culpabilité de cette femme et de cet homme ? Le ministère public à la charge de la preuve poursuit l'avocat qui se lance dans une charge ouverte contre le réquisitoire, démagogue, narcissique, imprécis, scandaleux. Apostrophe l'avocat général qui a dépeint Georges Tron comme un professionnel de l'embrouille. Vous voulez inscrire votre nom dans la procédure, mais vous allez sortir par la petite porte de service. Tempête au passage contre la presse et son populisme effrayant. S'adresse à Eva Loubrieux, restée seule sur le banc des parties civiles, relit l'une de ses dépositions. Je me suis laissée caresser dans la promesse d'être embauchée. « Mais tant pis pour vous, madame », tonne Éric Dupond-Moretti. Il ironise encore, anecdote à l'appui, sur la distance de sécurité désormais nécessaire entre les hommes et les femmes, se rapproche enfin des jurés. « Moi, j'ai la certitude que c'est un mec bien, la certitude de son innocence. Vous avez le droit de dire « je ne sais pas ce qui s'est passé », conclut l'avocat de Georges Tron. « Si vous le condamnez, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice ».
Verdict attendu donc dans la journée, le temps de ce jeudi 15 novembre. Après dissipation des brouillards matinaux, la grisaille va laisser la place à de timides éclaircies. Les températures sont comprises ce matin entre 4 et 8 degrés au nord de la Seine, 7 à 15 partout ailleurs. Cet après-midi, il fera entre 8 et 12 degrés en Alsace-Lorraine, 12 à 20 degrés partout ailleurs du nord au sud.